Bon, Fouad, eh ben écoute, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Plaisir partagé, Greg.
Donc, écoute, ça va être cool parce qu'on se connaît pas mal, on a fait plusieurs collabs, on a souvent discuté et tout, mais je pense qu'il y a pas mal de choses que je ne connais pas sur ton parcours. Donc, on va pouvoir un peu revenir sur ton parcours, on va pouvoir parler un peu d'entraînement, des méthodes et compagnie. Donc, je pense que ça va être cool. Alors, pour commencer. Comment t'es venu, toi, en fait, au sport de combat? Par quoi t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer et tout ça?
Alors moi, ce qui m'a motivé, déjà j'étais gamin, tu vois, et je suis la génération Club Dorothée, donc les mangas, Dragon Ball Z,
Ouais.
Kenny Survivant en compagnie. Donc
Pareil.
à l'époque, on avait des valeurs tu vois, de défendre le plus faible, c'est un petit peu chevaleresque, un peu de héros, tu vois. Donc je me prenais un
Ouais.
peu pour un héros, tu vois, je voulais être un héros en fait. Et puis un jour, la vérité, c'est que j'ai vu le film Kickboxer, et donc j'aimais la castagne, je me battais souvent quand j'étais petit. Et là, j'ai dit, ah ouais, je veux faire ça, je vais être champion aussi de kickboxing. Alors, quand tu regardes bien, kickboxer, c'était de la boxe thaï en plus. C'était du muay thai, tu vois, pour le dire. Ils sont même
Ouais,
pas bien renseignés dans le
oui.
terme. C'était muay thai ou nakmo, ils auraient dû appeler ça. Et donc, je me suis renseigné. Et dans la ville où j'habitais, il y avait un club de kickboxing. Et j'avais la chance, c'est que l'entraîneur, c'était l'entraîneur de l'équipe de France. Donc, il y avait un bon niveau. Le mec, c'est un
OK.
ancien légionnaire. Donc, entraînement. Et donc, ça m'a bien un peu discipliné, un peu ouf, le mec. Et puis, voilà, je me suis lancé dans le kickboxing. Après, très tôt, j'ai fait aussi du MMA à l'époque, tu vois, parce que je voulais. En fait, quand je voulais
T'avais
toujours
quel
faire
âge du coup quand t'as commencé?
J'ai commencé, j'avais 13 ans.
13 ans, ouais.
Ouais. J'ai commencé, j'avais 13 ans
Et c'était à
et
Lyon?
c'était à Lyon, ouais, exactement. Sainte-Foy-Lyon, exactement. Et
Ok.
puis voilà. Et après, ben, kickboxing, après MMA. Et après, sur la fin, j'ai voulu faire du Muay Thai, tu vois. Pour me remettre un peu. Au début, je n'aimais pas la boxe thaï, corps à corps, tu vois, je disais, ah, c'est quoi ce truc?
Ouais.
Et comme moi, j'avais un système où je boxais beaucoup en anglaise et je débutais, dès que je mettais des mecs de thaï, ils m'empêchaient de boxer. Tu vois, ils te cassent ton rythme. Donc,
Ouais.
au départ, j'ai détesté
Et
ça. Et après, une fois que j'ai compris un peu les bases, j'ai gardé mon système et en rajoutant, et puis voilà, quoi. Donc, ça fait un espèce de. J'ai un espèce de.
c'est vrai que le
Un
mouet,
peu.
ouais, le mouet, ça a bien évolué maintenant, mais avant, les Thaïlandais, ils avaient pas, au niveau des points, ils n'avaient pas une super boxe. Eux, dès que tu arrivais en distance de points, c'était le clinch et c'était le
Exactement.
travail de corps à corps. Et donc, ils n'avaient pas besoin d'avoir une super boxe. Par contre, ils étaient très bons en jambes. Et très bon en clinch, mais la boxe, c'était pas leur truc, mais ils savaient quand même gérer les boxeurs, quoi.
Ouais, c'était pas leur truc parce que dans le système de points, ça vaut rien en fait. Tu peux mettre le mec que de l'anglaise, lui il va te mettre un genou, tu vas perdre le combat. Et pourtant, tu l'as touché, bon, il s'est pas fait compter, tu vois, mais ils vont te mettre perdant. Il suffit que le mec ait mis deux genoux. Alors que toi, tu l'as peut-être défoncé en anglaise, ça compte pas de points. Donc,
Ouais.
ils vont là où ce qui compte le plus de points. Et c'est le corps à corps, coup de genou, ce qui marque le plus de points en taille. Donc, c'est clinch, en fait.
Ouais.
Voilà.
Et alors,
Mais après,
qu'est-ce qui t'a plu alors dans le donc tu voulais faire comme Van Damme, est-ce que tu voulais faire grand écart sur une voie ferrée
Ouais,
aussi ou pas?
je voulais faire 30 écarts. Et la vérité, j'ai jamais réussi à le faire. Mais j'en suis pas loin. Dans mon
Ben
cas,
tu vois,
mais j'ai jamais
c'est
réussi.
pareil, moi j'ai jamais réussi à le faire complètement, je me suis bousillé un peu la hanche à vouloir le faire et tout. Mais Van Damme, il a influencé pas mal. Toi, t'as pas eu du tout, du coup, de phase Bruce Lee et tout ça. C'était
Non.
direct
La vérité,
Van Damme
je
qui t'a
déteste.
motivé.
C'est pas bien. Il y en a plein qui vont pas m'aimer. Mais j'aime pas le Bruce Lee. J'aime pas ce côté arrogant, prétentieux et pas réaliste. Ils sont 30, et ils les défoncent tous. C'était du cinéma. Et ce qui m'énervait à l'époque, en plus, il y avait toujours des conflits. Ouais, non, Van Damme, il est plus fort que Bruce Lee. Non, c'est Jackie Chan. Non, c'est Chuck Norris. Non, c'est.
Ouais.
Bref, Stallone, on était vraiment dans ce là. Mais c'était pas réaliste. Je disais aux gens, mais vous croyez qu'ils sont 30, il va mettre un coup, il ne regarde même pas. K.O. Et j'aimais pas ce côté un peu trop cinéma. Et à l'époque, j'étais non, non. Bruce Lee, c'est le mec le plus fort du monde. Ceux qui sont fans de Bruce Lee, ils en étaient persuadés à l'époque. Hein. Et encore maintenant, il y en a, j'ai fait un jour une vidéo sur
Mais bah oui.
le plus fort Bruce Lee ou Mohamed Ali. Toi, j'ai voulu comparer sur le truc un peu. Il y a des gens qui disent non, non,
Ouais.
Bruce Lee aurait défoncé Mohamed Ali. Je dis, mais il fait 57 kilos. Qu'est-ce qu'il va avoir comme puissance? Oui,
Mais
mais
oui.
t'as pas vu quand il tape sur le sac tu sais, genre, la légende, c'est qu'il avait un sac où ils avaient mis
Ouais.
des billes de fer. Je dis, mais vous
Ouais.
avez vu quand il frappe, c'est pas un sac de billes, c'est un sac qui est super léger. C'est une légende, c'est du
Mais
mythe.
oui, mais il y avait j'ai fait la même chose par email il n'y a pas longtemps. Je vais faire un email sur ça aussi, sur Bruce Lee et Ali, parce que je ne sais plus dans quelle une série que je regardais où justement il y avait deux personnages qui s'embrouillaient sur ça, sur lequel aurait battu lequel. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça fait un sujet d'email. Et ouais, j'étais surpris des réponses des gens qui pensaient que Bruce Lee, avec ses 57 kilos, il allait pouvoir battre le champion du monde des poids lourds, qui était Mohamed Ali, quoi. Mais même dans n'importe quelle règle, ouais. Moi, je vois pas ça possible. Alors, et en plus, c'est vrai que Bruce Lee, il avait des idées intéressantes, il était en avance sur son temps, c'était un bon pratiquant, il avait des qualités physiques et tout ça, mais c'était un acteur, quoi. C'était un pratiquant, c'était un acteur, mais c'était pas un combattant, tu vois. Donc, de dire qu'il est meilleur que le meilleur de tous les combattants de l'époque, qui était Ali, non, faut arrêter quand même, tu vois.
Et en plus, tu vois, quand j'ai fait la vidéo, je l'explique. Je leur dis, mais voilà, maintenant, Bruce Lee, Mohamed Ali, il a été champion du monde. Voilà, il a boxé lui, boxé lui, des poids lourds en anglaise, il bat par KO. Bruce Lee, dites-moi qui c'est qu'il a fait, qui c'est qu'il a battu. De dire qu'il a fait des combats clandestins et qu'il a battu, ça reste des légendes, c'est un mythe. Et un jour, il a organisé, pour se faire populariser, un petit combat de démonstration avec un mec de karaté. Il a galéré. Il a pas, tu sais, il a pas mis KO, ouais. Il a pas fumé, il a fait son coup de pied, il a reculé, mais sans plus. Et c'était un gars de son gabarit, donc je leur disais, mais arrêtez. Tu vois, c'était pas un champion. Ouais. Donc, bref. Et voilà, il y en a qui sont encore persuadés que Bruce Lee, c'est le meilleur.
Non, mais après, bon, l'avantage, c'est qu'il a donné l'envie de pratiquer à plein de gens. Il a popularisé quand même les arts martiaux, les sports de combat. C'est quand même le premier à avoir montré une sorte de MMA tu vois, à l'écran, avec une
finalisation.
Ouais, mais oui, avec les gants, avec une soumission, tout ça, on ne voyait jamais ça avant, quoi. Donc, il était en avance. Maintenant, ouais, ça ne veut pas dire que c'était le meilleur du tout, quoi. Tu vois, ce n'était pas un combattant, et voilà. Mais bon. Mais moi, en tout cas, il m'a motivé. Mais c'est marrant parce que ça me fait rire. Tu parlais de kickboxer, qu'ils n'avaient pas mis le bon nom. Mais ça me fait penser au film de Bruce Lee, que c'était les films de karaté, alors que lui, il détestait le karaté. Exactement. Et qu'il faisait du kung-fu, tu vois. Mais quand tu allais dans ton vidéoclub, c'était marqué film de karaté, tu vois. Mmh. Et c'est le même délire. Et du coup, donc toi, tu disais que tu as fait du MMA aussi assez tôt.
Exactement.
Mais c'était avec le même prof ou c'est...
Avec le même prof où on faisait du judo brésilien, du judo à l'époque, du judo traditionnel, mais c'était que les clés et les machins. Et après, dans les années 90, tu vois, donc moi, c'était là où j'ai commencé la boxe, il y a eu l'UFC, les premiers UFC avec Pat Smith, avec les compagnies. Donc je me suis dit, c'est ça que je veux faire, moi aussi, je veux faire du MMA. En fait, ce qui m'attirait, moi, c'est quand je faisais des sports de combat, c'est d'essayer d'avoir un système le plus complet possible. Quand j'étais plus jeune, je me battais souvent dans la rue, moi. Tu vois, je me battais pour le moins de prétexte. J'agressais pas les gens, j'étais pas un voyou, mais j'aimais la castagne. J'avais des cicatrices partout, je faisais que me battre, donc je voulais vraiment être le plus proche de la réalité. Voilà pourquoi en fait je m'étais mis un peu à faire du MMA, et c'est aussi pourquoi par la suite, quand j'ai à l'âge adulte, j'ai développé un système qui s'appelle l'Urban Fight, qui mélange justement cette approche un peu de sport de combat mélange avec la self-défense, qui a donné naissance à ce système, tu vois, Urban Fight. Donc voilà.
Et du coup, vous avez fait. Comment t'as fait Tu t'es entraîné, t'as trouvé des combats à l'étranger, c'est ça?
Exactement. J'avais pris un titre de champion du monde, même si champion du monde aujourd'hui ça veut rien dire. Dans une organisation qui s'appelait WAF, il y avait Fabrice Overtoum qui boxait, qui avait été champion du monde ce jour-là. Il y avait Moïse Rimbaud, je ne sais pas si tu connais tout. En fait, François Lenoir, Greg Mouchlagem. En fait, on était plusieurs, mais on était quatre à avoir fait un champion du monde. Donc il y avait moi. Il y avait Fabrice Overdoum qui avait boxé, tu sais, celui qui entraîne au Canada, il est parti au Canada, comment il s'appelle, un Français de Nice, Georges Saint-Pierre.
Midou,
voilà, il y a Christophe Midou qui
c'est pas Midou, non?
Ouais, c'est ça, Christophe Midou, qui faisait, je sais pas, du monde poids lourd. Il y avait moi, il y avait, je sais pas, du monde, Albert, Jean-Louis Albert. Et après, l'autre, je sais plus c'était qui, je crois que c'était Moïse Rimbaud, c'était Moïse Rimbaud qui avait fait un titre, on était quatre en fait. Et après, les autres, c'était des combats comme ça. Mais à l'époque, il y avait très peu de combats. Il n'y avait rien du tout, tu vois. Et voilà. Et donc, du coup, dans ces débuts-là, c'était la guerre des disciplines. C'était genre, moi, je représentais kickboxing contre le judo brésilien. J'avais boxé même en boîte de nuit, tu vois, où j'avais boxé le champion d'Europe de judo brésilien. En fait, c'était, à l'époque, c'était la guerre des disciplines. nous on est plus fort, non c'est nous, c'est en vous. Et voilà, donc voilà, j'ai fait des combats comme ça à l'étranger.
Et ça avait donné quoi alors ces combats?
Je vais gagner, franchement j'ai gagné tous mes combats en fait. Hein. J'ai boxé aussi un adversaire de à Genève, parce qu'en France c'était interdit, de Cyril Diabaté. J'avais fait un petit combattant, je l'avais étranglé. C'est marrant, moi qui fais de la boxe, j'avais étranglé. Qui c'est que j'avais fait? Ouais, j'ai fait une dizaine de combats comme ça, tu vois.
D'accord.
Et puis il y avait des combats qui n'étaient pas déclarés aussi à l'époque. Quand on combattait en France, c'est des combats qui n'étaient pas déclarés. On combattait et franchement, voilà, combattez et débrouillez-vous. C'était très, 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 très mal perçu aussi à l'époque. Tu vois, on était considérés comme des barbares.
Il y a eu un moment aussi. Un truc s'appelait, c'était les Golden Trophy ou un truc comme ça, non?
J'ai fait ça. J'ai pas fait Golden Trophy, c'était la lutte contact. Mais j'ai combattu et on avait fait France-Japon. Japon-France.
Ouais, il y avait la star japonaise là, Max Sakurai ou un truc comme ça, non?
Ouais, je m'en fous du nom. J'étais parti, celui qui m'avait emmené, il y avait Didier Lutz, je sais pas si tu connais. Il y avait Patrick Fortry, on avait une petite équipe sympa aussi à l'époque, et c'était Panza qu'ils ont emmené, André Panza, et on avait boxé à Tokyo, et franchement à l'époque c'était ouf, c'était en 2002 je crois, 2002, t'es arrivé au Japon, on regarde les mangas, on aime bien les mangas, les films d'action, et là t'arrives, tu te retrouves à combattre au Japon, une salle qui était remplie, et là-bas, ils respectaient les combattants, quand on arrivait, on prenait des photos, des autographes, il y avait plein de publicité, franchement j'avais vraiment kiffé, je m'étais senti vraiment une star, toi, à l'époque. C'était on paye le billet d'avion, on paye la bouffe, on paye tout, toi. C'était ah ouais, c'est génial. Donc maintenant c'est normal, mais à l'époque c'était pas combattre au Japon, c'était quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Et c'était un très très bon souvenir.
Et comment tu te préparais alors? Pour ces combats.
Franchement, on essaie. À l'époque c'était boxe, essayer de tenir à distance la lutte, ne pas empêcher l'autre d'avancer, et après quand tu étais au sol on avait prenait les bases, tu vois, les bases de jujigatame, étranglement, guillotine, les petites bases, on apprenait à sortir, et puis ce que à l'époque on avait comme niveau, c'était le judo traditionnel, tu vois, du judo en fait, donc on avait une petite notion de ça, et avec ça on se débrouillait, hein. C'était pas le judo brésilien, n'était pas encore rentré à l'époque en France, ça n'existait pas, c'était pas connu encore. Donc voilà. Et comme je te dis, à l'époque, c'était vraiment la guerre de discipline. On n'était pas complet, c'était chacun sa discipline, on se débrouillait de trop bricole. Et maintenant, quand j'y repense, je n'avais pas le niveau en vrai. Au sol, j'étais bidon total. Mais je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir parce que je venais de la boxe. Et c'est pareil. C'est
Et tu continuais aussi à boxer en kick à ce moment-là ou...
Je continue aussi à faire le kick. Non, je continue.
Ouais.
Bah, tu sais, les combats de MMA, il n'y en avait pas, hein. Il y avait très très peu à l'époque. Il n'y avait pas autant d'organisation que maintenant, il y avait très très peu. Donc non, j'ai continué sur le kimono.
Je sais que tu disais souvent que tu t'entraînais beaucoup tout seul.
Exactement.
Tu étais aussi beaucoup formé tout seul. Comment ça s'est passé? Parce que donc, au départ, tu avais un coach, et après, c'est quoi? C'est toi qui es venu compléter tes entraînements, ou alors tu t'es séparé de lui et tu as continué tout seul?
En fait, je me suis séparé de lui. Quand j'étais sur Lyon, il devait y avoir à l'époque 3 clubs de kickboxing, boxe-style dans tout Lyon, ou 3 ou 4, tu vois. Mais les autres, c'était des clubs loisirs. Il n'y a pas vraiment de clubs de compétiteurs. Nasser Kassem, il est venu bien, bien après. Donc, il n'y a pas de club, tu vois. Et en fait, mon coach, en fait, il est un peu insociable. C'est un gars qui s'embrouille avec tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et il s'appelle Richard Gurie, hein, je peux le dire. C'est des gens qui connaissent et ils te diront, c'est un gars qui est marrant, qui est sympa, mais il est vraiment très, très dur. Et en fait, il faisait plein de réflexions. Un jour, j'ai fait un championnat d'Europe et j'ai perdu en finale, tu vois, où on m'a volé la... C'était un combat où je gagnais en même perdant, mais juste avant, il y avait un Russe qu'on avait volé. Donc, ils sont rattrapés sur mon combat et même les adversaires, ils sont venus à moi, ils ont dit, ouais, bah, c'est bon, en fait, c'est toi qui méritais de gagner. Donc, mon coach, il savait que j'avais gagné. Mais pourtant, il me dit, ouais, c'est bon, t'es fini, t'as perdu le combat. Et en fait, il a fait que je m'occupe plus de toi. Puis il disait à tout le monde. Et en fait, ça m'a vraiment saoulé. Et puis, c'était devenu très conflictuel. Donc, je lui dis, bah, écoute, tu peux t'occuper de moi, je me barre, je me débrouille tout seul. Et donc, c'est là, en fait, j'ai fini par m'entraîner tout seul. Et c'est quand je suis parti de chez lui que ma carrière a explosé en plus. C'est là où j'ai pris plein de titres de champion, c'est là où tout le monde m'a appelé pour combattre un peu de partout. Parce que c'est un gars que personne n'aimait à l'époque. Donc, du moment que j'étais avec lui, les gens, ils me boycottaient un peu.
Et est-ce que tu crois que c'est du coup c'est ça le fait d'être parti, ça t'a donné une rage en plus ou ça t'a permis de penser différemment parce que tu as été obligé de te débrouiller? Qu'est-ce qui fait? Tu crois que c'était quoi la différence?
Sincère, la rage, non, je pense que la rage j'avais déjà. Non, la rage j'avais. C'est juste que tu apprends à te débrouiller et tu vois les choses un peu différemment comme tu dis. Moi par exemple aujourd'hui, je sais que ça va faire sourire certains, mais aujourd'hui je suis meilleur combattant qu'il y a longtemps. Et pourtant, je ne m'entraîne plus comme avant. Et aujourd'hui, quand je boxe avec tous mes petits jeunes, mes petits frères compagnie, je leur mets encore on va dire des rousses. Ils vont dire que je suis prétentieux, mais tu vois, j'arrive encore à être au-dessus d'eux, techniquement, mais pas parce que je suis meilleur que physiquement, machin. Je pense que j'ai un coup d'œil, une expérience, que j'arrive à. Je vois la boxe différemment. Et ça, c'est quand je suis passé entraîneur. Dès que je suis passé entraîneur, donc quand tu expliques les choses, tu vois la boxe complètement différente. On ne l'aperçoit pas de la même manière. Et c'est ça qui m'a fait vraiment progresser. Et du coup, bah maintenant, techniquement, je suis mieux. Mais après, est-ce que dire, c'est parce que je suis parti de lui. Le fait que je suis parti de lui, on m'a proposé plein de combats après. Parce que lui, on me boycottait quand j'étais chez lui. C'est un gars qui n'est pas aimé du tout. Et donc, en tout cas, ouais, ça m'a aidé.
Et du coup, t'as, à quel moment tu t'es mis à enseigner? Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers l'enseignement?
La vérité, ce qui m'a amené à l'enseignement, c'est l'argent. Parce que j'étais étudiant, j'étais en fac de sport, et j'avais un logement, j'avais plein de frais, des allers-retours. Lyon-Saint-Etienne, j'avais chaque fois une heure de route pour venir m'entraîner et compagnie, donc il fallait de l'argent, les séances compagnie. Et donc j'ai donné des cours au départ dans une MJC, juste pour souvenir mes besoins, tu vois, pour mes factures. Et très vite, j'ai été pris par cet engouement, par cette passion de partager, de donner des cours. Et puis, je ne sais pas si toi, tu vas partager mon point de vue, mais d'une certaine manière, quand tu entraînes, tu as un certain pouvoir, tu vois. Tu te sens utile, tu sens que les gens ils t'écoutent, on te respecte, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup souffert ça quand j'étais jeune, le respect, compagnie, tu vois. Donc du coup, ça m'a donné confiance en moi. Les gens, ils étaient plus âgés que moi et ils me respectaient, ils se taisaient. Je les frappais, hein. J'avais lancé une méthode grand militaire. Et du coup, ça m'a permis de voir aussi la vie différemment, d'être plus responsable, d'arriver à l'heure, de prendre soin d'eux, d'être un peu plus comme un grand frère, tu vois. Un grand frère, j'ai ça, mais il y en a certains qui étaient plus âgés que moi. Mais bon, ça m'a beaucoup responsabilisé et puis franchement, j'ai kiffé. Donc après, très rapidement, j'ai aimé ça et j'ai ouvert carrément de l'MJC, j'ai ouvert mon propre club. Voilà, qui est encore aujourd'hui, que j'ai encore aujourd'hui, tu vois. Donc au départ, c'est l'argent.
La salle que tu as, c'est... Ouais. Et la salle que tu as, c'est ta première salle, c'est la même depuis le début?
Alors, non, c'est la même entité, sauf qu'au départ, on prêtait les salles à la mairie, tu vois. Les horaires qu'on me donnait, c'était pas. Par exemple, quand j'ai démarré, on me donnait un créneau à 9h. Et j'avais du monde hein, à l'époque. Hein. À 9h, on finissait à 10h30, 11h des fois, ce que je faisais d'entraînement. Donc, t'imagines, tu commences ton premier entraînement à 9h, 9h15. Donc, les créneaux, ils n'étaient pas du tout adaptés. Et puis surtout, la salle était trop petite. Comme je te l'ai dit, à l'époque, il y avait très peu de gens qui faisaient du kickboxing ou boxe thaï. Donc, bah forcément, c'était un peu à la mode. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de succès. Très rapidement, j'ai des gars qui ont été champions de France. Donc, en plus, on se baladait pratiquement tout le week-end. On partait en compétition, tu vois, en champion de France, en kickboxing, en boxe thaï. Et un petit peu les gars-là. Et puis voilà. Mais après, donc, du coup, comme les créneaux n'étaient plus adaptés, j'avais un club dans le 8e, Lyon 8e, un club dans Lyon 5e. Et un club dans 8e, 9e, 8e et 5e, dans trois endroits différents. Et ben en fait, c'est là où je me suis décidé, je vais tout centraliser dans une grande salle à mon nom. Et c'est là où je suis devenu, on va dire, entre guillemets, privé. Comme toi, où voilà, j'ai ma salle, où c'est moi qui ai les créneaux que je veux, et j'ai surtout une très, très grande salle. Voilà.
Ouais, ouais. Et tu as fait kickboxing et boxe thaï dès le début ou tu
yes. Parce que ta spécialité c'était quoi MMA. Je faisais MMA d'entrée de jeu.
Et MMA.
Moi je l'enseigne depuis 2005, mais ça marchait pas à l'époque. Ça marchait mais pas du tout. Tu leur disais combat au sol, ouais, on n'est pas des PD, on n'est pas des homos à se rouler par terre entre. Ouais. Parce que ils avaient vraiment des idées reçues les gens de se rouler par terre, tu vois, étrangler. Pour eux, le fait de faire du grappling, tu vois, bah pour eux ils avaient. Tu vois, des fois, t'es entre les jambes, à quatre pattes, ils avaient des idées reçues, ouais. Donc ils aimaient pas ça. Et aussi, ils connaissaient pas. Tu vois, donc ça a pas marché. Et à l'époque, je leur disais, vous allez voir, à un moment donné, le MMA, il marchera, enfin, dans mon cours, il marchera aussi bien que la boxe, et après, à un moment donné, il marchera mieux. Et bah, tu vois, là, on y est arrivé, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai autant de combattants, autant de pratiquants qui viennent pour le MMA que de la boxe. Voilà. C'est pas encore déplacé, j'ai pas encore plus de gars de MMA, mais ça va pas tarder, je pense. C'est un an ou deux. pense qu'il y aura plus de gens MMA qu'en boxe.
Et tu as réussi à concilier du coup, parce que moi je sais que ce que je vois souvent, ce que j'ai observé, c'est quand même que les mecs de la boxe thaï, ils regardent un peu de manière un peu condescendante le kickboxing, ils trouvent que c'est un style un peu inférieur à la boxe thaï, machin, tout ça. Enfin, moi j'ai souvent vu cette attitude-là de la part des pratiquants de boxe thaï qui trouvent que le kickboxing c'est naze, quoi, tu vois. Et toi, tu as réussi à faire les deux, quoi.
En fait, j'ai réussi à faire les deux, ça donnait, bah, en vrai, j'ai enseigné un système un peu hybride, tu vois. K1, c'était plus du K1 avec du corps à corps, tu vois. Donc c'était entre les deux. Ouais. Et les gens qui venaient, les clubs de boxe thaï, il n'y en avait pas beaucoup encore, comme je te dis à l'époque. Donc les gens, ils ne savaient pas ce que c'était la boxe thaï. Donc quand je leur disais en fait de la boxe thaï, un peu de corps à corps, bah, ça leur suffisait. Ils n'étaient pas pratiquants de boxe thaï. Donc ils n'avaient pas ce regard de boxe thaï plus fort que le kickboxing. Et moi, je leur disais, ce qui est bien en boxe thaï, c'est le corps à corps, le clinch, la puissance, le coup d'œil. Tu vois, ils ont une façon stratégique de bloquer le combat. Mais en même temps, ça manque de fluidité, ça manque d'enchaînement, c'est sur un coup, deux coups. Donc je leur disais, ben, nous ici, on fait les deux, on mélange les deux. Et donc, très rapidement, j'ai des gars qui ont combattu qu'en boxe thaï, qui ont préféré que la boxe thaï, d'autres que le kickboxing ou K1. Mais malgré tout, mes élèves, ils boxaient dans les deux. Tu vois, si on avait un combat boxe thaï, on y allait. Et si on avait un combat de kick, on y allait. Alors que, comme tu le dis, à l'époque, un mec de boxe thaï, tu le dis kickboxing, ben, il va dire jamais de la vie. C'était un sacrilège pour lui. C'était, ouais, laisse tomber, ça va pas, non.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc, il y avait... Et ça, elle est restée longtemps, cette guerre entre kickboxing et boxe thaï, tu vois. Quand nous, on arrivait en boxe thaï...
Bah, franchement, encore aujourd'hui... Ah ouais, encore aujourd'hui, moi, je la ressens encore, des fois.
Je la ressens encore aujourd'hui. Bah, quand nous, on arrivait...
Les vrais puristes, tu vois.
Ah ouais.
Les vrais puristes, parce que moi, la boxe thaï, je trouve ça très bien comme style, mais j'ai remarqué que il y a comme d'autres styles, comme le jiu-jitsu brésilien aussi, c'est des styles où les gens deviennent assez addicts, tu vois. Et ils surkiffent, ils rentrent dans un univers, ils font une immersion dans la culture et tout ça. Et du coup, tout ce qui est en dehors de ça, ça devient, tu vois, c'est pas bien, quoi. Et en fait, ils jugent tout par le prisme ou, si tu veux, la vision de leur style à eux. C'est-à-dire qu'ils vont, ils voient un mec qui fait du kickboxing, ils vont le juger par rapport à ce qu'eux, ils font en boxe thaï, mais ce n'est pas la même discipline, tu vois. Pour moi, c'est comme si tu juges un mec de boxe thaï sur sa boxe anglaise, sur les critères de la boxe anglaise, tu vois. C'est pas la même chose, quoi. Mais je le ressens, enfin moi, c'est un truc que je ressens encore, que ce soit dans les clubs ou que ce soit même dans les commentaires sous les vidéos, les machins et tout ça. Je vais savoir en fait souvent le mec ce qu'il pratique par rapport à ce qu'il va dire, tu vois, par rapport au type de réponse qu'il va mettre. Toi, tu ressens plus trop ça.
Non, je ressens plus du tout. Bah, parce que maintenant, les gens, ils ont intégré que je faisais de la boxe thaï. Ils m'ont intégré dans leur famille. Mais avant, quand on faisait les compétitions, comme nous, on vient du kickboxing, donc on a un système plus kickboxing, débité, mettre du rythme et tout, tu vois. On nous disait, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire là, tu vois. On nous faisait comprendre. Hein. Ouais. On a reçu plein, dans les débuts, on avait eu plein de réflexions. Ah, mais c'est du kickboxing, pourquoi vous êtes là? Vous n'avez rien à faire là. Donc il y a vraiment cette, comme tu dis, guerre. Moi, je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Et je partage ton avis, moi, sur, tu sais, le jiu-jitsu brésilien et la boxe thaï. Parce que je pense que les gens, ils arrivent plus facilement à ce qu'on dirait. Tu sais, le groupe d'appartenance, c'est la pyramide de Maslow, là, tu vois, comme les crossfighters, tu vois, comme ceux qui font du crossfit. Et ben pour eux, on fait de la boxe thaï avec tout ce que ça engendre, l'histoire, la culture, on est les plus forts, on est bien. Ouais. Alors que le kickboxing, son histoire, elle est, il n'y a pas vraiment d'histoire, ça vient un peu du Japon, mais on ne sait pas trop, c'est du karaté qui sont mis à faire du kickboxing. Il y en a qui vont dire que ça vient du Japon, il y en a qui vont dire, ouais, c'est un... Mais il n'y a pas vraiment d'histoire, donc c'est plus difficile de s'identifier en tant que pratiquant de kickboxing parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais par contre, du tout brésilien, il y a une histoire. Et boxe thaï, il y a une histoire. Donc, du coup, bah, les gens, comme tu dis, je pense qu'ils deviennent plus facilement addicts. Il y a le Ramway, il y a des noms. Donc, peut-être qu'ils arrivent plus facilement à s'identifier, à se représenter en tant que pratiquant. Alors que le kickboxer, lui, pas trop. Par contre, tu vas le retrouver chez les mecs qui font de la boxe française. Tu vois, en boxe française, pareil. Aussi, ils ont un peu ce culte. Ils ont un peu ce culte. Nous, on est les. Alors, en boxe française, on est plus technique, on est plus esthétique, on est efficace malgré tout. Tu vois, ils ont aussi un petit peu ce truc mis à l'écart. Et ils nous jugent des fois.
Et parce que je crois que, je crois que la boxe française, leur problème, c'est qu'ils ont une sorte de complexe d'infériorité, mais d'infériorité de popularité. C'est-à-dire que le style, moi, je le trouve très bien, tu vois, de la boxe française. Je trouve qu'il y a plein de choses hyper bien dedans, mais il y a des choses qui ont fait que ça n'a pas eu la popularité que ça aurait pu avoir. Ils sont un peu, bah, ils l'ont un peu mauvaise des fois, tu vois, de se dire putain, enfin nous, on fait des trucs, c'est plus, on est plus propre techniquement, on est plus ci, on est plus ça, et pourtant on n'a pas cette reconnaissance. Et du coup, ils vont être un peu rageux des fois à cause de ça, tu vois. Ouais, voilà. Mais bah, tu vois, déjà, ça me fait penser à une histoire aussi.
Salopette, hein. Ils auraient enlevé la salopette, ça aurait changé plein de choses.
Ouais, ben c'est ça. La vérité, hein. Même problème que la lutte. Même problème que la lutte. Ouais. En France. Tu vois, ouais. La tenue, c'est la tenue, quoi. Mais ça me fait penser à une fois, tu vois, j'avais été à un gala de boxe thaï et je croisais un ancien mec de mon club qui n'était pas un de mes élèves, mais qui avait passé pas mal de temps dans le club, qui était parti ailleurs et qui était à fond dans la boxe thaï, le style fimeux, il a été en Thaïlande et tout. Du coup, on passe à la soirée ensemble, on regarde des combats et à un moment, il y a un combat... je sais pas si c'était pas Willy Borel, mais peut-être un mec qui combattait en taille, mais qui était champion de kick, tu vois, qui prend un mec très fort de la boxe taille avec le style fumeux et tout ça. Mais franchement, le mec du kick, il le domine de ouf, tu vois, il lui met un volume de coups de salote, il arrive pas à suivre. Et tu vois, j'ai mon pote à côté qui était à fond sur la boxe taille, je fais putain, il l'a défoncé, tu vois, il me fait. Ouais, non, il fait non, mais il n'a pas le style fimeux. Il fait non, franchement, moi, j'aime pas. Et je fais, qu'est-ce que tu veux de plus ? Il lui a mis la misère, il l'a touché, il l'a sonné, il lui a mis tout, il y a tout qui passait. L'autre, il n'a pas arrêté de frapper dans le vide. Alors peut-être qu'il avait un style fimeux, mais en termes d'efficacité, tu peux rien dire, quoi. Et ben non, parce que ça ne correspondait pas, ça ne rentrait pas dans la case belle technique boxe thaï. Et ben, il ne pouvait pas apprécier. Bah, la supériorité de l'autre, tu vois. Et je trouvais ça dommage, quoi.
Et il a gagné, au final ? Ils l'ont mis gagnant, malgré tout ?
Ouais, l'autre a gagné, mais genre, le public n'était pas content, quoi.
D'accord. Après, tu vois...
Parce que c'était un public pour la boxe thaï.
Ouais, mais après, moi, ce que... Tu vois, c'est un truc... bon, là, ils l'ont mis gagnant, c'est bien. Mais un truc que je trouve vraiment très dommage, et on en a beaucoup souffert quand on met des jeunes en compétition, c'est les vols. Mais tu sais, les vols, pas juste, il a un peu dominé. Il y a des fois, il y a des combats où tu te dis, c'est pas possible. Comment ils ont pu mettre l'autre gagnant. Et c'est ça qui, aussi, qui a pourri un peu l'espoir, tu vois. Mais vraiment, des vols, ouais. C'est... Ah, franchement, on a beaucoup subi, non. Et en plus, parce que tu viens pas de Paris, parce que tu viens pas de ci, ou tu vois, c'est horrible. Et pareil, en boxe-style, quand on combattait au boxe-style, des fois, on nous mettait perdant parce qu'on venait du kickboxing. On a subi des fois du... Pour moi, c'est du racisme, une discrimination. Comme on faisait kickboxing, encore à corps, on n'était pas aussi bon qu'eux. On nous a mis perdant plein de fois, alors que l'autre, il n'arrêtait jamais de gagner. Et parce que voilà, vous venez du kick, on va vous sanctionner. C'est dommage d'en arriver là. C'est un peu... C'est bon, c'est comme ça.
Ouais, non, c'est pas évident. Et alors toi, quand tu t'es mis à enseigner, est-ce que tu as continué à combattre ou ça a été le moment où tu as arrêté la compétition ?
J'ai continué à combattre. J'ai continué.
En fait, tu as réussi à faire les deux parce que...
Au moment où j'ai... En fait, quand j'ai commencé l'enseignement, j'avais 21 ans. Tu penses bien que je faisais à peine les chemins de France à l'époque. Moi, j'ai commencé, c'est pour payer mes études. Donc, c'était vraiment, voilà, payer mes études au départ. Après, je me suis pris goût, super ambiance. En plus, quand tu as 20 ans, tu pars en week-end à Paris, tu pars un peu de partout avec le minibus, avec tes élèves, mais finalement, c'est un peu tes potes, tu vois. C'était génial. C'était des super souvenirs. Et, mais non, je combattais et je m'entraînais. Et en plus de ça, je m'entraînais.
Et ça, t'as toujours réussi à bien faire la séparation.
Ouais.
Parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est quand même, pour moi, presque deux choses opposées. Parce que quand t'enseignes, tu dois être, on va dire, altruiste. C'est-à-dire que t'es là pour les autres, t'es pas là pour toi. Et quand tu te prépares pour un combat, tu dois être égoïste parce que c'est toi qui montes. Il faut que tu te prépares toi, tu vois. Et je trouvais que de concilier les deux... C'est pas évident, tu vois.
Alors,
en fait, moi, j'ai vu des fois des coachs compétiteurs. Bah, leur cours, tu sens quand il est en préparation, c'est pas pareil, quoi.
Alors, tu as raison, mais moi, en fait, si tu veux, mais je partage, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je m'entraînais pas avec mes élèves, moi.
Mais tu as le droit de dire que je n'ai pas raison. Hein.
Non, le contraire, c'est deux choses différentes. Tu ne peux pas t'entraîner et entraîner les gens, ce n'est pas possible. Donc moi, je m'entraînais seul. Quand je m'entraînais seul, c'était quelqu'un qui ne tenait pas haut. Je faisais les sparring, mais mes entraînements, ils étaient en dehors des entraînements que je donnais. Donc il y avait la part des choses. Je m'entraînais moi, tu vois, d'un côté. Et quand j'entraînais mes élèves, je m'entraînais. Donc je ne m'entraînais pas moi à ce moment-là. J'entraînais que mes élèves. Et même les sparring, j'en faisais pas trop avec mes élèves parce qu'il y avait deux choses. Ou les élèves, ils osaient pas trop appuyer avec toi parce qu'ils te respectaient et compagnie. Ou des fois, c'était l'inverse. Les mecs, ils voulaient te. Mmh. Donc, ils ne veulent pas appuyer. Toi, tu les domines. Ils vont dire, ouais, putain, Faud, il est salaud, il frappe trop fort. Il veut. Il est. Tu vois, il est trop. Ouais. Non, voilà. Ou des fois, c'est l'inverse. T'as les mecs, parce que t'es le coach, ils veulent te descendre. Ils veulent montrer qu'ils sont capables. Et donc, j'ai toujours trouvé, moi, que ce n'était pas une super ambiance. Et les fois, en plus, où j'ai fait des sparring, bah, une fois, j'ai mis un coup perturbé à un gars. Il s'est baissé, il l'a pris là. Et ça lui a cassé quelque chose aussi. Et il m'en a voulu, le mec, pendant longtemps. Tu vois et donc, voilà. En plus, tu leur fais un peu mal ou machin. Ils vont dire, ouais, c'est bon, il se la pète. Il n'accepte pas qu'on touche. Ou tout des trucs un peu. Donc, les sparring, j'en faisais rarement avec mes élèves. Donc, en fait, mes élèves, je les entraînais. Et moi, je séparais mes entraînements de ceux de mes élèves.
Parce que. En fait, enfin là, je sais que sur ça, il y a pas mal de coachs qui sont pas forcément d'accord avec moi, tu vois. Mais moi, de mon point de vue, même s'il y a des fois, je faisais pas comme ça, mais la majorité du temps, quand je donne un cours, je m'entraîne pas parce que si je suis en train de m'entraîner, je peux pas regarder tout ce que tous les élèves aller les corriger, voir les détails. Et puis souvent, je trouve que tu te nourris, tu vois, des erreurs, des choses à corriger dans la suite de ton cours. Et tu passes à côté de plein de choses si tu es en train de t'entraîner, mais je sais que pour un aspect pratique, il y a pas mal de coachs qui ont en fait c'est pas leur boulot à plein temps, donc ils ont un boulot la journée et quand ils donnent cours, c'est un peu leur seul moment aussi où ils peuvent s'entraîner, donc ils donnent un cours et ils s'entraînent en même temps quoi. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que pour toi un coach il doit s'entraîner, parce qu'il y en a, ils vont dire oui, mais comme ça tu aides tes élèves à progresser, tu tournes avec eux, ça les aide et tout ça. Et puis y a ceux comme moi qui vont dire tu passes à côté de plein de choses parce que t'es pas en train d'observer, de prendre tous les détails et d'aller corriger les gens en fait.
Alors je dis pas ça parce que c'est toi, mais moi je partage ton avis. C'est où t'es entraîneur ou t'es pratiquant. Tu peux pas mélanger les deux. Si tu viens, tu viens. Les gens, quand ils viennent pour que tu les entraînes, pour que tu les corriges, pour que tu sois près d'eux. Et oui, c'est vrai, si tu fais du sparring sur la fin, il n'y a pas de mal. Parce que ça, tu les as entraînés, donc là, c'est du sparring. Mmh. Donc ça fait partie encore d'entraînement. Mais quand tu vas faire un sparring, peut-être tu ne verras pas aussi les autres ce qu'ils font et les corriger. Mais encore, on va dire, les gars, ils sont en sparring, ils se débrouillent, ils s'amusent. Mais tu ne peux pas entraîner les gens. Tu ne peux pas t'entraîner et entraîner les gens en même temps. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te concentres sur toi, tu ne te concentres pas sur les autres, forcément. Et les gens, ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu les corriges. Tu vois, même si c'est un cours collectif et ce n'est pas du coaching, donc tu ne pourras jamais corriger tout le monde, tu ne pourras jamais dans une séance ou aider tout le monde. Mais il n'empêche que tu es là pour t'assurer qu'il y a un bon roulement, une bonne animation aussi. Tu es là pour animer, pour mettre de l'ambiance. Parce que moi, ma définition d'entraîneur avant tout, un bon coach, c'est aussi un gars qui sait bien animer, qui sait bien gérer son cours, tu vois, qui est là pour gueuler quand il faut gueuler, qui va rigoler quand il faut rigoler, qui est proche de ses élèves sans être trop proche non plus, qui met une petite barrière. Mais surtout, pour moi, le coach, c'est le gars qui motive ses élèves, tu vois, qui comprend ses élèves et qui les motive. Voilà. Ouais. Quand tu vois qu'il y a un gars qui ne s'entraîne pas trop, il doit essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui ce gars il est pas bien, ce qu'il est triste, qu'il aurait une galère. Tu vois, le coach, même si c'est pas un psychologue, même si on fait pas du social, on a quand même malgré tout cette fonction de, on doit aider nos élèves, et des fois ça va au-delà de l'aspect sportif, tu vois. Et quand tu regardes bien, ils s'en rend pas compte. Tu vois, dans mes débuts, je vais te faire une confidence. Quand je commençais à donner des cours,
nous on s'en rend pas compte en tant que coach.
De quoi? Que quoi?
De ça. En fait, comme des fois, ça se décale un peu avec Internet. On est un peu en décalé. Du coup, je te parle par-dessus toi, mais c'est parce que on est en décalé. Mais je disais, nous, le fait qu'on apporte en tant que coach beaucoup plus parfois que simplement donner des cours, on s'en rend pas toujours compte. Mais je sais que les élèves, moi, je l'ai vu plusieurs fois, ils viennent te voir et ils te disent que tu as changé leur vie ou que tu leur as apporté tellement de choses et tout ça. Et toi, parfois, tu as juste l'impression de donner ton cours de boxe ou de kick ou de je ne sais quoi. Et tu ne te rends pas compte que tu as un impact qui va beaucoup plus loin que ça, quoi.
Exactement. Ouais, alors moi, je m'en rends compte parce que les gens, ils me le disent. Et tu vois, récemment, j'ai acheté une voiture. chez un élève à moi. Et l'élève, il m'a fait faire une affaire, il m'a fait gagner 7000 euros. C'est-à-dire que le mec, en fait, c'est comme s'il m'a offert 7000 euros. Et pourquoi? Parce que c'est un gars, à un moment donné dans sa vie, il s'est retrouvé à la rue, il dormait dehors, dans sa voiture, et il venait aux entraînements, tu vois. Mais je ne savais pas, moi, à ce moment-là, tu vois. C'est là où on ne peut pas savoir la vie de tout le monde non plus, et on ne peut pas questionner tout le monde. Mais par contre, dans mes cours, je donne beaucoup d'aspects, moi, un peu de dev personnel, de psychologie, de neurosciences, soit à la fin de chaque cours, en général, je leur donne une petite notion, tu vois, d'habitude, de comment on mange, de comment on dort, de respiration, bref, plein de trucs sur la difficulté, sur la confiance. Et ce gars-là, il me disait, à chaque fois que j'étais pas bien, je repensais à ce que tu me disais, ça m'a fait du bien. Il me dit, en fait, tu m'as aidé et tu peux même pas te rendre compte comment je suis reconnaissant. Et ça l'a permis, lui, de rebondir. Et puis maintenant, le mec, il est prêt. Je crois qu'il est millionnaire, le mec, maintenant. Tu vois, il a super bien rebondi. Il vient d'acheter un million d'euros. Il est super bien. Et donc, du coup, quand il m'a vendu la voiture, il m'a fait économiser 7000 euros. Donc, je l'ai payé 7000 euros en dessous du prix du marché. Non. Et il m'a dit, non, c'est moi qui te remercie. Ok, on se remercie mutuellement.
Ça, c'est une belle.
Tu vois ? Donc, voilà, c'est pour dire que.
C'est une belle reconnaissance.
C'est vrai que des fois, tu vas aider quelqu'un, tu le sais pas, toi. Bah, tu vois, je pouvais pas savoir que ça l'avait aidé, le petit discours. Mais bon, voilà. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, ouais, quand tu es entraîneur, voilà, un bon coach, il doit quand même, malgré tout, être proche de ses élèves, les motiver, les appeler, tu vois, et avoir ce côté un peu motivant. Et ça, tu peux l'avoir que si tu es vraiment qu'entraîneur. Mais si en plus tu combats, forcément, ou tu t'entraînes, bah, tu es un peu collé sur toi-même. Et donc, il y a plein de petits détails que tu ne verras pas sur tes élèves. Et donc, tu vas passer à côté de plein de choses. Tu ne vas pas les corriger, tu ne vas pas les motiver, tu ne vas pas voir s'il y a un problème. Bref, donc non, moi je partage ton avis. On est ou entraîneur ou combattant. De temps en temps, ça peut le faire. Ouais. C'est occasionnel, mais il faut que ça reste occasionnel. Et après, ces gens-là qui n'ont pas le choix, bah après, ils ont pas le choix, est-ce qu'ils font bien leur boulot? Peut-être qu'ils le font bien, hein, je ne sais pas. Hein, mais bon, à choisir, moi je pense qu'il faut
ou t'entraîner. Je pense que ils peuvent peut-être le faire bien, mais ils le font toujours moins bien que s'ils se concentraient à fond sur juste l'entraînement. Tu vois. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement que le cours sera pas bien, mais pour moi, je suis quasiment sûr que leur cours serait mieux s'ils ne s'entraînaient pas pendant qu'ils donnent cours. Quoi. Après, c'est un débat. Et alors toi, au départ... quand tu as commencé à donner tes cours, ouvrir ton club et tout, tu avais quand même un autre taf à côté ou tu as réussi à vivre de ça rapidement?
En fait, tu veux, très, très, très. J'ai intégré une fac de sport, l'UFR STAPS, sur Saint-Etienne, parce que je m'étais inscrit trop tard pour Lyon, donc finalement j'ai dû aller sur la fac d'après, tu vois, à Saint-Etienne, qui était à une heure de Lyon, trois quarts d'heure, une heure. Et donc, j'étais étudiant, entraîneur pour gagner un peu ma thune. Et puis, dès que je suis sorti de la fac, je voulais être prof de PS. La vérité, je n'avais pas le niveau. À l'époque, il y avait 12 000 candidats et ils en prenaient que 900, je crois, ou 400. Donc, en fait, il y avait trop de demandes pour eux. Et je n'avais pas le niveau. Il fallait faire partie des premiers. Et donc, je me suis orienté dans la préparation physique. Tu vois, et très rapidement, en fait, j'ai eu, on va dire, le privilège de coacher Benzema. Tu vois, Karim Benzema. Je sortais juste de la fac et un jour, il est vers moi. Un pote à moi m'appelle, il me dit, ouais, ça dirait de coacher Benzema? Je vais faire de la boxe, je dis, bah ouais, bien sûr. Je dis, ok, bah vas-y, on va venir s'entraîner avec toi. Et puis après, bah, plus rien, je dis, ouais, c'est encore un mytho, lui. Tu sais. Mais 6 mois après, il m'appelle, il me dit, ouais, tu veux toujours entraîner Benzema? Je dis, ouais, bah, est-ce que tu peux entraîner ce soir? Je dis, ouais, bien sûr. Je me suis débrouillé, tu vois, je lui ai fait un cours. Et à la fin, je lui dis, écoute, quand même, t'es là combien de temps sur Lyon? Il me dit, bah, je suis là juste une semaine parce qu'après, je vais sur Paris pour faire de la prépa physique avec un préparateur physique italien. Je lui dis, bah, écoute, moi, je suis préparateur physique, tu sais, je sortais de la fac, je peux m'occuper de toi si tu veux. Il me dit, ok, bah, vas-y, demain, fais-moi un entraînement et on voit ce que ça donne. Et lui, il préférait, tu vois, à l'époque, en plus, il aurait préféré s'entraîner à Lyon pour rester près de ses amis, de sa famille, tu vois, parce que c'était la première année où il était parti au Real de Madrid, sa première année au Real de Madrid. Et donc, je fais un entraînement, un deuxième entraînement, il a kiffé. Et à la fin, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, bah, écoute, on signe avec toi. Et donc, j'ai entraîné pendant un mois. Et donc, en fait, très rapidement, j'ai eu comme ça, bah, j'ai eu Karim Benzema, j'ai eu plein d'autres footballeurs du coup professionnel, après j'ai eu du basketteur, j'ai eu des rugbymen pro, et après je me suis lancé moi dans le coaching. Donc en fait j'ai fait du coaching et d'entrée de jeu, donc je boxais et je travaillais en même temps du coaching. Mais coaching, t'as vu, c'est cool, tu fais une heure ou deux dans la journée et c'est comme si t'avais travaillé toute la journée, donc c'était cool, c'est super cool. Donc pour moi ça allait super bien, je vivais de ma passion. J'avais une salle de sport le soir où j'étais rémunéré, plus mes cours de coaching, plus mes combats, bah c'était le top, hein. Donc en fait toute ma vie tourne autour des sports de combat. Et c'est encore un peu le cas aujourd'hui.
Et est-ce que tu as vu une différence? Tu as vu une différence parce que toi, du coup, tu étais quand même du milieu des sports de combat et tout, là, avec un ou d'autres footballeurs professionnels, en termes de manière d'approcher l'entraînement, de charge de travail, de, je sais pas, de l'éthique de travail et tout. Est-ce que tu as vu une différence avec toi, avec les gens que tu côtoyais et tout dans les sports de combat,
bien sûr.
Quelqu'un qui est vraiment pro, tu vois, qui gagne beaucoup d'argent là-dedans et tout ça, quoi.
Ouais, je vais casser un peu de certains mythes, tu vois, et je pense que ça peut faire du bien à des gens, puis il y en a qui vont pas aimer ce que je veux dire, les footballeurs, ils vont dire, qu'est-ce qu'il raconte lui, mais en fait, ils seront tous d'accord avec moi, au final, ils vont pas aimer, mais ils seront d'accord. Si tu veux, le milieu du foot, c'est un milieu qui est pourri gâté par l'argent, et en fait, plus tu montes de niveau, et plus en fait, on te bichonne, et moins tu fais appel au mental. En fait, ah, t'es blessé, bon, vas-y, fais rien. Ah, t'as mal à la jambe, ah, fais rien. Et en fait, il gagne tellement d'argent, il y a tellement d'enjeux, qu'on a tellement peur que les joueurs se blessent, qu'on ne les pousse jamais réellement à bout. Ce qui fait qu'on en a fait des sportifs un peu trop bichonnés et trop chouchoutés, tu vois. Et puis, attention, le footballeur, le pro, hein, tu vas en vacances, on va te prendre tes vacances. Tu veux un appartement, on va t'en chercher pour toi. Ta voiture, moi, en fait, on fait tout pour qu'eux, ils n'ont rien à faire, qu'ils se reposent, qu'ils se concentrent que sur le travail. Mais en les rendant comme ça, on ne les a pas responsabilisés. Et c'est un grand écart avec les sports de combat où nous, quand on s'entraîne, on va au charbon, il faut que ce soit dur, il faut qu'on dépasse nos limites. Et quand tu approches, ouais. Quand j'ai amené justement cette vision dans le milieu du football, bah en fait, c'est là où justement j'ai cartonné. Cette discipline, ce dépassement de soi, ils ne l'ont pas au football. Ils l'ont quand ils sont amateurs, mais plus tu montes de niveau, et plus ça se perd. Toi, plus et de moins en moins. Et ceux qui l'ont, bah, comme Benzema par exemple, ouais, bah, voilà, le mec comme Benzema ou tous les grands stars, c'est un mec qui, eux, ils vont dans le dépassement de soi. Après, tu vois, une fois que j'ai eu des sportifs de haut niveau, je me suis mis après à coacher carrément en club pendant les vacances scolaires et l'été, tu vois, là où moi j'étais tranquille. Bah, c'est là où on a besoin d'un préparateur physique, c'est lui qui s'occupe au football, donc pour des clubs pro, hein, j'ai géré des clubs pro. C'est eux qui font la préparation, ce qu'on appelle la première phase, la plus importante qui dure 5-6 semaines, tu vois, où ils font des stages. Et après, le reste de l'année, ils ont un entraînement dur par semaine, vu qu'ils ont des matchs toutes les semaines, et qu'entraînement. Et donc, c'était là où on confirme le plus gros du travail. Et quand je suis arrivé, je suis arrivé avec ma méthode du milieu du fight. Et ben, au début, les joueurs, il y a un joueur qui était pro, il me dit ouais, putain, on s'entraîne trop dur, c'est trop physique. Et ils râlaient, hein. Les joueurs, ils râlaient, ils étaient vraiment pas contents. Et en plus, moi, j'avais une discipline, je les frappais, j'avais un bâton, tu vois. Et il fallait pas qu'on manque de respect, alors c'était pour rigoler, mais j'enseignais vraiment un peu comme je faisais dans les sports de combat, mais avec du respect, c'était cool, hein. Mais attention, faut pas manquer de respect, si t'es en retard, tu prends un coup de bâton, tu fais du... Ouais. Et très rapidement, je me suis fait une super réputation, et franchement, on a fait des très bons scores. Le club, quand il m'a pris, à la base, l'entraîneur, il avait son diplôme européen en préparation physique. Un diplôme que moi j'avais pas à l'époque, j'avais que STAPS, j'avais un diplôme de préparateur physique, mais lui il avait un diplôme au-dessus. Et je lui ai dit, voilà moi comment j'enseigne, comment je vais préparer tes gars, voilà si jamais on bosse ensemble. Il me dit, ah ouais, et moi je m'étais inspiré des Américains. En fait, au football, comme ils font d'abord de l'endurance, après ils vont faire de la force, et après ils vont faire de la vitesse, tu vois. Et c'était américain, et les Américains ils disaient que c'était pas bien parce que pour développer une qualité, il faut entre 4 et 6 semaines. Et eux, on leur faisait 2 semaines de force. En 2 semaines de force, tu ne vas pas prendre de force ou même de la vitesse. Donc, eux, ils disaient, bah, d'entrée de jeu, on va tout travailler, toutes les filières, mais avec des prédominances endurance, prédominance en force, mais la vitesse, on va la travailler tout de suite. Et quand j'ai expliqué ça au coach, bah, après, il est parti faire un stage au Paris Saint-Germain et ils lui ont dit exactement ce que je lui ai dit à l'époque. Et donc là, il me rappelle, il dit quoi, il faut être bingo, on le prend. Donc voilà, j'avais déjà un petit peu de temps d'avance sur la préparation physique parce que je m'inspirais beaucoup des Américains qui, pour moi, ils ont encore de l'avance dans plein de domaines encore aujourd'hui, tu vois. Et voilà. Et après, mon côté discipline, taisez-vous. Et les entraîneurs, des fois, ils ont du mal dans les clubs à se faire respecter par les joueurs, tu vois. On parle pas du haut niveau, tu vois, même au niveau, hein, même au très haut niveau. Hein, c'est ça que des fois, les joueurs, ils vont mal parler, ils vont rigoler. Ouais, c'est bon, tu me casses la tête. Tu sais, des fois, il y a le respect, il est mais nous, en sport de combat, mais... Un élève, il me parle mal, il en prend une directe. Et eux, ils se chambrent un peu. Alors maintenant, ils essaient de leur mettre plus de discipline. Genre, si t'arrives en retard, ils ont une amende. Tu vois, mais c'est que récent, tout ça. Hein. C'est quoi, il y a 3-4 ans. Et là où tu vois une grosse différence, c'est avec le rugby. Le rugby, ils sont disciplinés. Ils ont un tableau. Tout ce qui est, ils ont tous les entraînements qui sont déjà définis, une horaire. Voilà, il vous reste 10 minutes pour manger, vous avez 15 minutes de pause. Voilà. Et en fait, ils les ont responsabilisés comme pas possible. Et au football, on les a trop, vraiment trop chutés. Alors maintenant, on essaie de mettre des sanctions financières, c'est arrivé en retard et tout, mais c'est, si tu écoutes ton Walkman, tu mets des sanctions. Mais voilà. Mais je pense malgré tout, la discipline, elle n'y est pas au football. Ouais. Bon, je pense que j'ai répondu à ta question. Je me suis éparpillé peut-être un peu.
Si, si, ouais, ouais. Non, non, c'est bien. Mais justement, ça me fait rire parce que moi, c'est un truc que je vois. Alors, c'est pas pour nous envoyer des fleurs ou quoi, mais je trouve que souvent, les gens qui viennent des arts martiaux, des sports de combat, ils ont pas peur d'aller tester des nouvelles choses. Ils s'intéressent. On reste moins facilement, je trouve, dans un cadre. Et en termes de méthode d'entraînement, tu vois, on est assez ouvert en général et on aime bien tester des nouvelles choses et tout. Là où dans les sports très institutionnels comme le foot, machin et compagnie, bah faut pas dévier de la norme, tu vois.
Exactement.
Et du coup, c'est souvent, je vois, tu vois, des fois, je découvre des coachs qui ont une méthode intéressante et tout. Et puis, quand je m'intéresse à leur parcours, je vois que, en fait, c'est un mec qui a fait des arts martiaux, des sports de combat, tu vois. Quand tu regardes dans son parcours, même si c'est plus du tout ce qu'il fait, mais je me dis, tiens, encore une fois, c'est un mec qui vient des sports de combat. Et bah voilà, il a eu cette ouverture d'esprit d'aller chercher des trucs pas communs, tu vois.
C'est complètement vrai ce que tu dis, parce que, tu vois, c'est bien que ça. Bah, tu vois, au football, par exemple, en fait, j'ai fait plein de clubs pro, hein, donc de national, deuxième division, troisième division. Hein, j'ai pas fait première division. En première division, j'ai fait un club de rugby, moi, le Loup, tu vois. Et bref. Et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, les entraînements, pratiquement, peu importe le club où tu vas, c'est les mêmes entraînements, des fois les mêmes exercices. Ce qui va changer, c'est l'animation du coach, comment le coach il va animer, comment il va parler avec ses gars, tu vois. Mais c'est fou. Hein. Et ça, tu t'aperçois qu'ils ont des exercices qui datent d'il y a longtemps. Ils n'ont pas dévié, même dans la préparation physique à l'époque. Ils sont restés dans le même schéma d'entraînement. Et comme tu dis, aucune ouverture d'esprit. Comme ils ont la même formation, bah, en gros, tout le monde fait la même chose. En gros, c'est peut-être que maintenant, c'est un tout petit peu différent, je ne sais pas. Hein, mais ouais, ils en sont. Alors que, comme tu dis, nous, en boxe, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouverts. Beaucoup plus ouverts. D'ailleurs, bien, dans les sports de combat, le crossfit, à la base, il vient un peu. C'est le MMA, hein, les premiers qui l'ont popularisé. Les combattants de ouais. l'UFC, hein, qui l'ont popularisé.
Ouais, grave.
Le crossfit, le HIIT. Pareil, c'est les combattants qui ont le Tabata et compagnie. C'est encore nous, les combattants, qui l'avons mis à l'ogo. Après, maintenant, on l'utilise de partout. Donc, je pense que malgré tout, dans les sports de combat, on a comme une petite avance sur plein de domaines. Regarde, retiens ça. Là, en ce moment, moi, je développe un programme que je teste sur moi-même. Et tu vois, dans quelques temps, bah, encore une fois, ce sera les combattants qui vont les utiliser en premier. Et après, on va le voir. C'est des entraînements en apnée, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de protocoles pour augmenter ta condition okay. physique sans aller courir, sans faire des footings, juste avec des petits exercices que tu fais chez toi. Alors, tu montes de genoux, tu fais du shadow, mais en apnée poumon vide, avec les par le nez, tu vois. Et on s'est aperçu bah, que ça permettait de produire de l'OPO. Tu vois, la même hormone, en fait, quand tu es en attitude ou quand tu t'entraînes intensément. Okay. Mais juste parce que tu es en apnée. Parce que ton cerveau, lui, il ne fait pas la différence que tu te fais un entraînement vraiment physique ou pas. Lui, quand il voit que tu manques de condition physique, bah, terminé, il dit que c'est pas normal et boum, il va sécréter le PO va être sécrété par le rein, moelle osseuse, du globule rouge. Et pourquoi je fais ça? Pour dire que même encore maintenant, là, bah, dans les sports de combat, on est en train de tester des choses qui sont, moi, que je teste aussi, qui sont intéressantes et on les verra dans les autres sports après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, dans les sports de combat, on nous apprend ouais. vraiment le dépassement de soi. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et dans beaucoup de sports de collectif, ils n'ont pas cette gaine. Parce que déjà, nous, quand on monte sur ring ou dans une cage tout seul, ils sont plusieurs, donc ils peuvent s'ils sont pas bien, ils peuvent se reposer sur ouais. les joueurs. Nous, on n'a pas ça. Nous, quand tu montes sur le ring ou sur la cage, tu es tout seul, donc tu es obligé de te donner à fond. Et tu dois justement essayer de chercher constamment.
T'es face à toi-même.
Ouais. Alors que dans un sport collectif, ils n'ont pas. Voilà.
Ouais. Non, mais c'est sûr que. Après, moi, les sports collectifs, je trouve ça bien et tout. C'est pas, ça m'a jamais énormément intéressé. Mais c'est vrai que sur les. Le mental et tout, que ça développe. Après, bon, ouais, le rugby, je pense qu'il faut avoir un bon mental aussi. Tu as des trucs genre le hockey où ça castagne aussi bien, tu vois. Mais tu peux quand même toujours un peu te reposer sur le collectif, tu vois, le groupe, ton équipe et tout. Là où dans les sports de combat, bah, quand tu es dans la merde, tu es tout seul face à quelqu'un qui te défonce. Les ressources, c'est toi qui dois aller les trouver. Les solutions, c'est toi qui dois aller les trouver. Tu n'as personne pour venir t'aider, quoi.
Une question pour toi, Greg. Justement, tu as commencé par quoi comme sport, toi? Quels sont les sports sur lesquels tu as commencé? Parce que tu vois ce que tu viens de dire là, juste
Moi,
avec le sport que tu as fait, on peut faire un profil d'une personne.
J'ai fait petit, j'ai fait du karaté, mais on va dire que mon entraînement sérieux, il a commencé à 14 ans où j'ai fait Kung Fu 1 an et après c'était du Wing Chun qui est aussi du Kung Fu.
D'accord.
Mais moi, j'ai fait le Wing Chun, j'ai une base vraiment traditionnelle, tu vois.
D'accord.
Et c'est juste en 2000 que j'ai commencé la boxe anglaise, tout ça. Après, j'ai toujours été fan de boxe anglaise. Génération Tyson, et je regardais tous les combats. Et même avant de faire de la boxe anglaise, j'avais eu accès à des. Je sais plus sur quelle chaîne, ils repassaient des trucs en anglais, des documentaires sur plein de boxeurs, des vieux boxeurs, et tout ça. J'étais passionné de boxe, même si j'en pratiquais pas. J'avais un sac de frappe, et je m'entraînais à boxer tout seul, mais voilà, sans une vraie technique, tu vois. Mais moi, j'ai une vraie base d'art martial traditionnel, avec une approche traditionnelle et pas compétition, c'est-à-dire. C'est pratique où tu essaies de pas forcément de t'améliorer pour te mesurer aux autres, mais te mesurer à toi, quoi, devenir meilleur par rapport à ce que tu es, tu vois. Et par contre, cette notion que je trouve qu'il y a parfois moins dans les sports de combat de le labeur, tu vois, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Même si c'est chiant, tu fais des milliers de répétitions pour peaufiner ton geste. J'étais capable de travailler un geste. Seul devant mon miroir ou quoi pour le perfectionner des centaines et des centaines de fois et je me lassais pas, tu vois.
Ouais, on n'a pas ça, nous, c'est vrai. Le sport de combat, il n'y a pas ça.
Non, il n'y a pas ça. C'est pour les gens qui font les sports de combat, c'est chiant ça.
Mais Greg, et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des sports de combat? Pourquoi le Wing Chun, par
Moi,
exemple
c'est la.
et...
Bah. En fait, moi j'étais comme toi, j'étais très bagarreur quand j'étais petit. Enfin, c'était mon temps. Je sais pas pourquoi, hein, tu vois, j'avais pas de raison. Enfin, j'étais dans un quartier où un peu chaud, mais c'est pas pour autant que voilà que ça explique que j'avais un peu une sorte de violence en moi. Donc j'étais très bagarreur, j'étais fan de tous les. Moi j'aimais le Jackie Chan, Bruce Lee, mais Stallone, voilà, avec les Rocky. Je regardais tous les Chuck. J'avais un vidéoclub en fait qui était en face de chez moi, tu vois. Et donc il y avait la section films d'action avec tous les Chuck Norris, les Kurt Russell, les Bronson, les. Enfin bref, les trucs de ninja, American Ninja et compagnie. J'adorais ça, quoi. Et donc, plus ça, le fait que j'étais bagarreur, ou je raconte souvent cette histoire, mais première semaine d'école primaire, on me dit, tiens, lui, regarde, faut surtout pas s'embrouiller avec lui parce que et c'est le plus fort de l'école et en plus il a tous ses grands frères qui vont venir te défoncer si tu t'embrouilles. Je me suis battu avec lui direct et on est devenu pote après, tu vois. Mais on m'a dit faut pas, bah, je suis allé m'embrouiller avec lui, je me suis battu avec lui, tu vois. Mais il m'a respecté après par rapport à ça, tu vois. Et voilà, et ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois, ce côté un peu, ouais, non, on me mettra pas, de jamais vouloir me laisser faire, on me mettra pas la pression et je me laisserai pas impressionner.
Donc, t'as un côté un peu
Enfin, j'en ai eu
tête
plusieurs des histoires.
brûlée, t'as un côté tête brûlée, un petit peu un côté rebelle, un peu de dépassement de soi aussi. Et aussi, alors dans ce que tu me dis, hein, tu me dis si je me trompe, mais ça veut dire que toi aussi, comme moi en tout cas, tu avais de la frustration en toi. Parce que cette violence que tu exprimais, tu vois, d'une certaine manière, c'est un mal-être, tu vois, que tu as dû avoir. Et toi, tu l'exprimais avec la violence, c'est comme ça que tu l'exprimais. Et aussi, ça veut dire que c'est là où c'est paradoxe, tu avais une certaine confiance en toi. Même si tu n'étais pas, tu peux peut-être à l'époque avoir une mauvaise estime de toi-même, mais tu avais une certaine confiance en toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, tu es entrepreneur, tu as une chaîne, tu as de l'avance aussi sur plein de trucs, tu es curieux, côté un peu curieux et avancé. Et puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est le fait que tu t'entraînais seul, toi aussi, d'une certaine manière. Tu répétais les gestes. Donc tu étais t'es vraiment dans le côté un peu dépassement de soi et performance finalement, à devenir le meilleur possible, quoi. Et tu savais que ça passait par tes entraînements et par toi, en fait. Non?
Ouais, non, carrément, ouais. Mais j'ai toujours eu. Ouais. Après, y a plein de choses, je pense, qu'ont influencé ça. Mais comme toi, j'avais un peu ce côté à croire, tu vois, dans les héros et à défendre les ça. Je me rappelle, je m'étais battu avec un mec qui avait poussé mon meilleur ami et lui qui avait qui n'avait pas osé répondre. Et pareil, c'était un mec qui faisait peur à tout le monde et on s'est battu dans la rue, mais on était tout petits, on avait 8 ans. Et enfin, après, il y a la mère de mon meilleur pote qui était arrivée et il y avait tout un attroupement autour de nous. Et elle avait dit à mes parents, je suis désolé, j'ai pas réussi à les séparer. En fait, c'était tellement violent que ça m'a paralysé, quoi. On est, ouais. Et on était en train de se taper dessus. L'autre était plus petit que moi, et, mais il m'a mis des coups de boule par en dessous. Il me sautait en me mettant des coups de tête. J'ai terminé avec la tête comme ça. Et moi, je l'ai allumé. Enfin, une bagarre de gosse, mais tu vois, violente, tu vois. Et je supportais pas, en fait, tu vois, genre l'injustice ou qu'on essaie de s'en prendre à quelqu'un que j'aimais bien et tout ça, quoi. Donc, c'est comme toi, j'étais jamais le mec qui venait chercher l'embrouille réellement. Mais par contre, ouais, je voulais pas, je me laissais jamais faire. Et je vais pas dire que j'avais pas peur de me battre. Pour moi, enfin, c'est faux si tu as tout le temps peur. Mais la peur ne t'empêche pas d'y aller, si tu veux.
Mmh. Elle ne paralysait pas.
Elle ne paralysait pas. Et il y a des moments, ouais, où le côté tête brûlée, il y a des fois où j'ai eu de la chance, tu vois. Mmh. Il y a des fois où j'ai eu de la chance, mais dans mon adolescence, mes potes, à chaque fois, ils me prenaient, ils me mettaient devant quand il y avait une embrouille, tu vois. Et parce qu'ils savaient que moi, j'allais y aller s'il fallait y aller, tu vois. Voilà. Mais souvent, en fait, j'ai eu de la chance parce que bah, les gens, ça m'arrivait. Maintenant, je suis devenu hyper. Je me contrôle et je ne suis plus du tout comme ça. Les gens, ils ne me perçoivent pas comme ça et c'est tant mieux. Mais quand, genre, tu as le switch un peu mental, les gens en face, ils le voient, tu vois. Et souvent, j'ai plusieurs fois des mecs, quand j'arrête de parler et que j'ai mon switch, qui me disent « qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me taper ?» tu vois. Genre, ils le voient, que ça y est, c'est en train de monter, mais ce n'est pas parce que je me mets en garde ou je ne sais quoi, tu vois. C'est juste, ils voient dans mon regard qu'il y a un truc qui a changé.
Attitude.
C'est ça. Mais ouais, il y a des fois où j'ai eu de la chance, tu vois. Je suis allé, ils étaient 8 ou 10 et j'y allais tout seul et je me serais fait défoncer la gueule, mais en fait… Il me prenait pour un ouf. Du coup, après, les gens, ils devaient se dire il a trop confiance en lui, c'est chelou, c'est pas normal. Ouais. C'est pas que j'avais confiance en moi, c'est que j'y allais parce que j'avais genre un coup de sang, tu vois, et t'y vas, quoi. Mais oui, je pense que les arts martiaux, ça m'a vachement aidé. Et tout ce que j'ai regardé, tu vois, c'est con, mais tous les films d'arts martiaux de Jackie Chan où il s'entraîne beaucoup tout seul, il passe des heures à se répéter, il tient des positions de ouf et tout, ça aussi, ça m'a influencé. Et moi, ça me faisait triper. Donc après, quand moi, je me suis mis à m'entraîner, bah, pour moi, je faisais comme mes héros dans les films. Je dépassais la douleur et je m'arrêtais pas parce que c'était fatigant et parce que ça faisait mal et je continuais, tu vois.
Ah, cool. Et une question, Greg. Toi, tu as fait plein de sports, là, de combat. Tu as une préférence pour un sport en particulier ? Parce que tu as fait kickboxing, K1, lutte, grappling, tu as pratiquement tout fait. Tu as aussi karaté, tu as quoi de kung fu. Il y en a un que tu affectionnes le plus ?
Aujourd'hui, je pense que je préfère le plus, et ça va surprendre peut-être les gens parce que c'est jamais ce que je montre dans mes vidéos, mais c'est la lutte.
Ah ouais ?
Ça fait 11 ans maintenant. J'ai fait 10 ans avec Yuri quand j'étais à Paris. Maintenant, j'ai repris un autre coach à Bordeaux. Et moi, c'est vraiment un style que je sais pas pourquoi. J'adore et je regarde tout le temps des matchs de lutte et des techniques de lutte et avec Yuri on s'envoie souvent des vidéos machin et tout. Je pense que c'est vraiment un de mes styles préférés depuis pas mal d'années maintenant.
Ah ouais.
Et après
je n'aurais pas dit moi.
Ouais. Mais je sais, les gens ils savent pas, hein, ils savent pas.
Et comment ça fait que tu n'en partages pas plus alors du coup des techniques de lutte vu que c'est ce que tu kiffes le plus?
Parce que déjà, faut avoir un partenaire qui. J'en faisais un peu sur Instagram à une époque avec Yuri quand on faisait nos entraînements. Mais c'est plus lui qui montrait que moi. Mais tu sais, tu as toujours ce côté légitimité où tu te dis, bah, même si ça fait 11 ans que je m'entraîne et tout, je ne me sens pas coach de lutte, même si je pense que je pourrais donner des cours, pas pour des compétiteurs, mais voilà, pour. Pour un niveau débutant jusqu'à intermédiaire, je pense que je peux pas mal m'en sortir. Mais surtout, c'est que je pense que ça n'intéresse pas énormément de monde. Donc, forcément, les choix que tu fais, c'est aussi lié à ce que les gens ils ont envie de voir. Mais moi, à titre perso, ouais, c'est un de mes styles préférés, quoi. Ça, et puis le Wing Chun, c'est ma base et c'est toujours un style que j'adore. Les gens, de nos jours, ils comprennent plus trop, je trouve, les arts martiaux. Après, tout de suite, c'est du mytho-jutsu et tout ça, mais en fait, on s'en fout. Je suis pas en train de dire que tu vas aller défoncer 10 personnes avec le Wing Chun. En fait, si ça te plaît, ça te plaît, c'est tout, tu vois. C'est assez trippant, tu vois. Moi, quand j'ai été redonné un stage la dernière fois dans mon club de Wing Chun, ça faisait un bout de temps que j'avais pas pu pratiquer. Ça m'a fait un bien fou. Je kiffe. En fait, c'est une gestuelle, un truc. Que ce soit réaliste, pas réaliste, on s'en fout. Ça me fait tripper, et les élèves aussi. Donc, c'est top. Et puis, bah ouais, tout ce qui est boxe pied-poing, j'adore ça aussi. Mais voilà, le Wing Chun, j'ai plus de mal maintenant à m'y entraîner seul comme je l'ai fait avant. J'en ai trop mangé et voilà, ça m'attire moins. Même si pendant le Covid, j'ai fait pas mal de cours Zoom, du coup, en solo de Wing Chun, et justement de refaire des répétitions dans le vide comme je faisais quand j'étais jeune et tout, ça m'a quand même fait un truc qui s'activait en moi, tu vois. Ouais, il y a quand même un boom, un truc qui revenait, tu vois. Donc là, je vais en faire des pour une plateforme. J'ai un nouveau truc qui doit sortir dans pas très longtemps, mais une plateforme de cours en ligne, et je vais en refaire des cours en solo comme ça de Wing Chun. Et puis voilà, après tout ce qui est boxe anglaise, boxe pied-poing, j'adore, et le grappling aussi. Je prends un cours par semaine de grappling et un cours par semaine de lutte, tu vois, et je kiffe.
D'accord.
Et toi, c'est quoi ta préférence?
T'es plus sur la lutte alors.
Ouais, maintenant, ouais.
Ouais, mais en plus, ouais, c'est marrant. Hein. Moi, ce que je préfère, ah, malgré tout, ça reste striking. Le mélange boxe-taki
Ouais.
boxing, tu vois. Le mélange, même si j'aime énormément la lutte contact, la lutte à livrer, grappling, lutte à livrer, et donc le MMA forcément. Mais moi, j'aime Castagny, en fait. Ouais. Voilà.
Ouais.
S'il y avait une préférence, je préfère Castagny. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le grappling. La lutte, un tout petit peu moins, parce que j'aime pas aller au sol. J'aime pas les projections compagnie.
Ouais.
Donc, je préfère éviter. Si c'est moi qui le fais, ça va. Mais quand on le fait, c'est moins agréable. Je suis moins à l'aise avec ça.
Ah,
Mais voilà, plus le striking et. Ouais, on va dire striking et MMA, quoi. Après, l'urban fight,
ouais.
c'est différent. Je prends du plaisir aussi. Mais là, c'est plus côté réaliste. Donc, c'est un peu comme toi. Il faut répéter des choses. Il faut se conditionner. Et c'est plus du conditionnement qu'autre chose, en fait. Et puis, tu peux pas vraiment prendre la
Ouais.
dans. En self-défense, donc c'est différent. C'est juste une préparation, c'est comme ça.
Mais c'est vrai que
Ouais.
ouais. Moi, j'aimais beaucoup avant faire du sparring en pied-point et tout ça en anglaise, mais pas mal d'arthrose cervicale. Donc, il y a un
Ouais?
moment où à chaque fois je terminais. Ouais, mais en fait, j'ai eu un accident de ski quand j'avais 15 ans avec
Oh.
3 semaines de minerve.
Ah ouais.
Et du coup, bah. Ça a été jusqu'à un certain point. Et puis un jour, j'avais souvent des débuts de torticolis, tout ça. Et j'étais voir un médecin, il m'a fait, bah, en fait, c'est bon, là, faut que vous arrêtiez de prendre des coups dans la gueule parce que vos cervicales, elles sont plus trop d'accord, tu vois. Donc après, j'ai renforcé les cervicales et tout. Mais ouais, puis préserver un max. Après, je me faisais pas que genre, je me prenais plein de coups dans la gueule, parce que en vrai, je me faisais pas trop, trop toucher à la tête. Ça allait, tu vois. Mais préserver un max le cerveau. Et puis bah, truc tout con aussi, c'est je me suis fait poser des facettes au niveau des dents parce que j'avais des dents de merde un peu. Et bah, ça, tu prends même si t'as un protège-dents, souvent tu prends un coup dans la bouche et ça te fait sauter une facette. C'est 80 balles à chaque fois pour la recoller
Donc
en
ça calme.
lutte, même en lutte avec Yuri, plus d'une fois, j'ai perdu des facettes sur une projection. Bam, clac, la tête qui tombe par terre. Bim, les dents qui claquent et tu perds machin. Donc, c'est un peu relou. Mais voilà, là, je refais un peu avec ma femme. Elle est pratiquante et tout. Tu vois, ce matin,
Ah,
on s'est
cool.
fait un entraînement de boxe. Et à la fin, ouais. À la fin, alors, on n'a pas fait un vrai sparring parce qu'on a eu une petite fille il y a un an et tout. Donc, elle reprend seulement là. Tranquillement, mais je lui ai dit, elle, moi j'ai mis le casque et je lui ai dit de m'attaquer, donc je travaille que mes défenses. Bon, voilà, j'en prends des fois un peu dans la gueule et voilà, c'est cool. Mais moi j'adorais la bagarre, hein, mais c'est vrai que là, d'un point de vue longévité, maintenant je me dis, voilà, je vais pouvoir continuer à m'entraîner, pas avoir de. Voilà, me retrouver avec des douleurs, des trucs qui m'empêchent de m'entraîner au quotidien et tout. Donc bah, j'ai fait le choix de plus trop faire de sparring, même si j'aimais ça, quoi.
D'accord. Cool. Ah, du cérémonie,
Toi,
après,
ça castagne toujours.
on a des parcours qui sont un peu similaires finalement. Bon, après, toi, tu as choisi le
Ouais, ouais,
Wushu,
ouais.
mais on a un peu la même histoire, les héros, les mangas, les films d'action, la
Mmh.
Trimmer seul, la castagne, tu vois. Ça fait plein de copains. Mind
Ouais,
challenge.
ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est clair.
Ouais,
Bah
c'est
voilà, tu vois.
ouais.
Non, non, mais c'est cool. Bah, souvent, tout le monde n'a pas les mêmes parcours, hein, mais il y a des similitudes quand tu es attiré vers quelque chose. Quand on est tous les deux à être attirés vers quelque chose de similaire, il y a une raison souvent derrière ça, tu
Greg, j'aimerais bien avoir ton avis. Comment tu vois l'avenir des sports de combat et des arts martiaux maintenant? Vu que le MMA, il est en train malgré tout de tout
Alors,
rafaler,
ouais.
est-ce que tu vois encore un avenir dans la boxe anglaise, dans la boxe
Bah,
thaï, boxe thaï, dans certains types d'arts martiaux ou pas?
les arts martiaux, moi, c'est ce que je dis. J'en ai parlé pas mal avec beaucoup de gens ces derniers temps. Enfin, ça fait 1 an que je dis ça, au moins, peut-être un peu plus. C'est que les arts martiaux, c'est en méga perte de vitesse, quoi. Les gens, et je te dis, même la manière de pratiquer tout ça. Les gens, ils comprennent plus trop, tu vois. Bah oui, quand tu fais les arts martiaux, tu fais une attaque, tu laisses ton poing pour que l'autre il s'entraîne à faire sa technique et tout. C'est la méthode d'apprentissage, et c'est pas pour ça qu'en fait ça va pas fonctionner. Tu vois, j'en parlais avec le, j'ai un trou de mémoire, le père Diaz du Kaju Kembo. Je sais pas si tu les connais, Joe Diaz et
Non, non,
bon, c'est ceux qui ont amené le Kaju Kembo en France, tu vois.
d'accord.
Et le père, donc lui, bah, il a plus de 70 balais. Et je lui parlais de ça. Il me dit, oui, je comprends que les gens, ça leur fasse bizarre et qu'ils trouvent ça, enfin, ils trouvent ça étrange. J'ai dit, mais voilà, il dit, moi, j'ai 70 balais. L'autre, c'est un tout petit gabarit. L'autre fois, j'ai un voisin qui bloque tout le temps la rue avec sa voiture, qui comprend pas et tout. Je lui ai demandé de pousser sa voiture. Il n'était pas content. Il était agressif. C'était un mec beaucoup plus gros que moi. Et bah, il l'a séché en un coup à 70 ans, tu vois.
Ah
Donc,
ouais.
il me dit, moi, plus d'une fois, je sais que ce que je fais, ça fonctionne, tu vois, parce que je suis un petit gabarit, donc les gens, ils n'hésitent pas à venir m'emmerder. Et bah, j'ai dû user de la force plus d'une fois. Donc, on ne pourra pas venir me dire, non, ça, c'est du mytho, ça ne marche pas, parce que moi, ça a fonctionné pour moi plein de fois, tu vois. Et je lui dis, c'est vrai, mais visuellement, les gens, ils ont du mal à comprendre la méthode d'apprentissage des arts martiaux, surtout que bah, les sports de combat, c'est ce qui est le plus. Voilà, le plus apprécié maintenant. Quant à l'avenir, bah ouais, je vois pas un super avenir pour les arts martiaux. Maintenant, les sports de combat, je m'en fais pas trop. Je pense que déjà tous les composants du MMA
Ouais.
vont pas avoir de problème.
Ouais,
Tu vois,
boxing
donc
style,
tout ce qui est boxe
boxing
anglaise,
glass,
boxe
boxing style.
pied-poing, voilà.
Ouais, je suis d'accord.
Donc
Après,
ça, je pense qu'il y aura pas de souci.
savais aussi, Greg, quand tu regardes l'histoire aussi des sports des arts martiaux, tu vois, et on peut le voir à travers les films si tu veux. Tu vois, à l'époque, on pensait que celui qui faisait du karaté, du kung fu, il était efficace dans la rue. Tu vois, et on pensait que, bah voilà, si tu faisais un peu
Ouais.
de. On pensait que celui du karaté, qui est un sport, voilà, une légende, qui est pas trop adapté pour la rue, tu vois, ou taekwondo, on pensait que tu étais super fort à cause de Jackie Chan, Van Damme, Chuck Norris et toute la clique, tu vois. Et après, on a vu que ça a perdu le jour où en fait le MMA il est rentré en jeu. Le MMA il a mis tout le monde d'accord. Il s'est montré que voilà,
Ouais.
les sports qui sont efficaces, voilà, il y a la boxe thaï, il y a kickboxing, boxe thaï, plus kickboxing, boxe anglaise, lutte, grappling, enfin, je joue brésilien, grappling. Et voilà, donc du coup, les gens ils sont aperçus
Ouais.
finalement. Tous ces sports-là, ils sont pas si efficaces que ça a déchanté. Plus, je sais pas si tu vois un peu sur Internet, tous les duels où tu avais un grand maître de Wing Chun ou un maître de machin qui combat un mec du MMA et qui se fait éclater. Tu vois? Donc les gens, ils sont aperçus que finalement,
Ah oui.
bah, c'est plus si efficace que ça. Et puis aussi, je pense aussi le côté mentalité qui a changé. Faire des katas, des trucs par cœur, dans le vide et tout. Ce côté discipline, je pense qu'elle correspond plus aussi à aujourd'hui. C'est plus mentalité, c'est plus les mêmes. Les gens, ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de s'amuser. Tu sais, quand je pense, trop discipliné. Et donc, moi, je suis comme toi. Je ne le vois vraiment pas d'un bon oeil. Ça m'intéressera toujours parce qu'il y a toujours des gens qui seront intéressés et qui feront du karaté, qui feront du kung fu. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura vraiment une perte de vitesse. Et je pense que, comme tu dis, le MMA, à un moment donné, le
Ouais.
MMA, il est en train de bien, bien, bien s'étendre. Hein. Je
Ouais.
pense que même la
Après,
boxe thaï, quoi.
faut aussi que les sports de combat, ouais. Mais tu vois, faut que les sports de combat, ils évoluent parce que les arts martiaux, ça permettait aussi des fois à des gens qui ont envie de pratiquer ça, mais qui n'ont pas envie de se de prendre plein de coups dans la gueule et de se faire mal et machin et tout. Ça permettait à des gens de rentrer dans ce milieu-là, de développer des réflexes, de la vitesse, de la puissance, de la précision, tout ça. Donc, ils pouvaient quand même avoir un avantage sur quelqu'un dans la rue, même si aujourd'hui, il y a déjà d'une part beaucoup plus de pratiquants, beaucoup plus de gens qui regardent des combats et du coup, tu as plus de chances dans la rue de tomber sur quelqu'un qui va connaître ou avoir quelques notions ou qui, parce qu'il a regardé plein de combats, il voit peut-être un peu plus le truc venir. Donc, peut-être que dans les années 70-80, tu faisais du karaté, tu surprenais beaucoup plus un mec, tu vois. Donc, il peut y avoir ça. Mais il faut aussi que les sports de combat, je trouve, s'adaptent et accueillent et acceptent les gens qui ont envie de faire un sport de combat, mais qui n'ont pas envie de faire de la castagne. Voilà.
Ouais, c'est le cas déjà. Parce que quand tu aurais bien en France, par exemple, tu vois, je crois qu'en boxe française, ils sont 100 000. En kickboxing, boxe thaï réunion, on est pareil, on doit être 80 000, 70 000. Mais des compétiteurs, il n'y en a pas tant que ça. La grande masse, c'est des gens qui viennent pour se défouler. Hein. Se défouler, perdre des kilos, apprendre à se défendre.
Ouais, mais tu as aussi, tu sais, même si tu ne fais pas de compète, tu as plein de gens. Moi, j'avais fait l'expérience une fois. C'était Jovan Delhomme qui m'avait dit qu'il faisait ça dans ses cours. Et à la fin de mes cours de kick, je disais sparring ou pao. Et en fait, chacun choisissait ce qu'il voulait faire, tu vois. Et alors, du coup, il y avait les rounds qui tournaient. Ceux qui voulaient faire du pao, bah, je leur donnais un enchaînement à bosser pendant 3 minutes. Et à côté, il y avait les autres qui faisaient le sparring. Et ben franchement, il y en avait... un bon tiers, des fois la moitié, qui préférait faire du pao que du sparring, tu vois, et qui était là, qui me disait, ah ouais, franchement, c'est hyper bien comme idée, soit parce que ce soir, j'ai pas envie, je me sens pas en très bonne forme et je me sens pas de faire du sparring, soit, juste moi, le sparring, c'est pas une expérience agréable pour moi, il y en a qui me disaient, qui m'avaient même dit, tiens, moi, je viens plus souvent depuis que tu fais ça, parce que le sparring, j'avais pas trop envie et du coup que ce soit imposé, ça me plaisait pas, tu vois. Donc, tu vois, sans, et pourtant on parle pas de compétiteurs, hein, mais des loisirs qui auraient le choix aussi de faire du sparring ou non, tu vois. Je trouve que c'est une idée intéressante aussi, quoi.
Ah, c'est franchement, c'est pas mal. Moi, je vais pas te mentir, moi, les gens qui viennent, ils veulent que du sparring. Tu vois, sparring. Ils viennent, ils aiment trop le sparring. Moi. Dans mon club, les gens, ils aiment trop le sparring. C'est rare les gens qui n'aiment pas le sparring. Je pourrais leur faire une séance que le sparring, ils seraient contents. Mais malheureusement, ils vont rien apprendre. Ils vont apprendre des choses, mais
l'apprentissage. Mais essaye un jour. Ouais, essaye un jour de proposer. Ouais, tu dis, ok, sparring, et s'il y en a ou pas haut. Et c'est pas genre tout le monde fait l'un ou l'autre, c'est vous avez le choix, on peut faire les deux. Donc, et tu verras.
Je vais le faire.
Tu seras peut-être surpris.
Ouais, je vais le faire.
Ah, franchement, ouais, tu me diras.
Ouais, je te dirai. Ouais, ça marche.
Ça marche. Bon, écoute, je crois qu'on a tous les deux des choses à faire, donc on a pas mal discuté.
Ouais.
C'était cool.
Ouais, c'est super cool. Merci pour l'invitation. T'es un bon visionnaire. Une question, Greg. C'est quoi ton secret pour que les gens ils restent chez toi 10 ans ou longtemps? C'est quoi ton secret?
Parce que ça, c'est ce qu'on a parlé avant de commencer le podcast où je disais que ouais. J'ai dans mes coachings, j'avais des gens qui me restaient plus de 10 ans avec moi, mais une majorité en fait, c'est pas genre quelques-uns. Et dans mes cours collectifs aussi, voilà. Moi en fait, c'est ce que je dis des fois souvent aux coachs, en fait, c'est pas une question de méthode, de pédagogie et tout. Pour moi, c'est la relation. La relation que tu développes. Moi, je sais que les gens, ils restent avec moi. Parce qu'ils passent un bon moment et que bon, je leur donne aussi ce qu'ils veulent et tout ça. Mais ouais, moi, je développe une vraie relation.
Tu vois ça, alors, pour les gens qui nous regardent, c'est intéressant.
Garder une distance.
À l'école, ils vont t'apprendre l'inverse. À l'école, quand tu es coach, ils vont dire de prendre des distances avec le client, pas être trop pote, pas être trop truc.
Ouais.
Moi, je partage ton avis. C'est qu'à un moment donné, tu vois, plus tu vas être proche de ton client, ton élève, et plus tu vas créer des liens, et plus il sera content de venir, pas pour boxer, mais pour discuter avec toi, pour échanger, pour te voir, pour se défouler, tu vois, de manière
différente.
Ouais. Ok. Merci pour le secret.
Moi, je sais que, tu vois, les gens... Ouais, mais j'en ai parlé avec certains, tu vois, par exemple, moi, le truc de, genre, toute séance non annulée moins de 24 heures après sera dû ou un truc comme ça quand tu fais du coaching. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais en fait, moi, j'ai pas ce genre de relation-là, quoi. Je sais que si j'ai un élève qui m'annule au dernier moment, c'est qu'il a un vrai problème parce qu'ils sont tous tout le temps contents de venir et ils font tout pour venir. Et je vais pas, en plus, alors qu'il a un vrai problème, lui faire payer une séance dans le vide. Tu vois, déjà, moi, ça me met mal à l'aise. Mais j'ai, en fait, ceux qui font ça, je trouve que tu casses la relation avec tes élèves. C'est pas, enfin, moi, j'ai pas cette relation-là. Et c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et donc, non, je me vois. Enfin, ouais, avec la relation que j'ai, tu ferais pas ça à un pote, tu vois. Donc, pour moi, c'est comme. Ouais, je les aime vraiment, mes élèves. Donc, je me vois pas leur faire ça, quoi. Donc, tous ces trucs de. Voilà, de mettre des règles, machin, comme ça et tout, même si c'est pour se protéger. Non, pour moi, en fait, si tu as une bonne relation avec les gens, ils te feront pas ce genre de truc. Donc, tu n'as pas besoin de mettre des règles comme ça en place.
Si vous êtes coach, voilà, là, vous avez un secret, quelque chose qui marche, c'est rester proche de vos clients, soyez potes, soyez amis, intéressez-vous de lui. Et ça, vous écrivez un vrai lien. Et donc,
il faut que ce soit sincère. Hein.
Oui, bah, bien sûr. Oui, bien sûr.
Mais oui, il faut que ce soit sincère. Il ne faut pas faire semblant d'être proche pour les garder. Il faut que ce soit sincère. Ouais. Bon, écoute, Fouad, super. Ouais, merci, c'était merci cool. On a bien discuté. Ouais.
Et ben, ouais. Prends soin de toi, Greg. Merci. Prenez soin de vous. Et puis, continuez à faire des sports de combat ou des arts martiaux.